France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, nous les producteurs, on laisse le micro. Nous offrons une carte blanche à la percussionniste Adélaïde Ferrière. Fan de musique contemporaine, Adélaïde Ferrière a déjà créé de nombreuses partitions de Hugues Dufour, Martin Matalon, Philippe Hurel ou Camille Pépin. Naviguant entre les esthétiques avec liberté, nous faisons entendre autant boulez que le jazz le plus débridé. Bonne écoute.
Bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de partager la prochaine heure avec vous à l'antenne de France Musique pour cette carte blanche. On y parlera bien sûr de musique contemporaine, mais quelques détours vers le jazz seront aussi à l'honneur, avec des compositeurs qui m'ont personnellement marqué. Ils ont également largement participé au développement du répertoire de la percussion, qui gagne ses lettres de noblesse en tant que soliste et chambriste depuis le milieu du XXe siècle. Commençons tout de suite avec Olivier Messiaen. Véritable pionnier de l'utilisation des claviers dans l'écriture orchestrale, il y développe le rôle soliste de l'instrument, ainsi que sa virtuosité, et en crée même un à part entière, le xylorimba, qui, comme son nom l'indique, forme un clavier hybride entre le marimba et le xylophone, notamment utilisé dans le magistral « Des canyons aux étoiles », l'une des premières œuvres concertantes écrites en 1974, que j'ai eu par ailleurs la chance d'enregistrer il y a quelques années. J'ai été personnellement frappée par cette dimension complètement hors du temps que peut apporter l'écoute et le jeu de cette pièce incroyable. L'espace-temps s'étend et s'arrête presque, imageant la grandeur des canyons et l'immense inconnu de l'univers et du cosmos. La grande majorité de l'œuvre de Messiaen demande bien sûr une concentration extrêmement poussée de la part de l'interprète et l'auditeur est invité au voyage instantanément. Écoutons tout de suite Chronochromie, fascinante, massive et virtuose, du grec chronos pour le temps et chroma pour la couleur du temps. Vous venez d'entendre la coda, dernier des sept mouvements de Chronochromie par Olivier Messiaen, créé en 1960. Compositeur évidemment très connu pour sa passion ornithologique, puisque nombre de ses œuvres sont inspirées du chant des oiseaux, on en retrouve ici venu de France, Suède, du Japon ou encore du Mexique. La percussion dans l'œuvre de Messiaen y est largement représentée. Des cloches tubulaires, du glockenspiel, des gongs, mais aussi du xylophone et marimba, au timbre très clair et boisé, sont parfaits pour imaginer la griffe de Californie, dans les oiseaux exotiques par exemple. Mais un des élèves de Messiaen a également participé grandement à l'émancipation du rôle soliste de la percussion au sein de l'ensemble ou de l'orchestre. Il s'agit de Pierre Boulez et sa pièce Répond, créée seulement près d'une vingtaine d'années plus tard. Pièce de musique mixte, elle regroupe un orchestre, six solistes et, grande particularité, un dispositif de haut-parleurs. Mélange de musique acoustique et électronique en temps réel, elle est ainsi nommée, notamment en rapport au Répond, issu du chant grégorien. Ce qui me parle beaucoup dans cette œuvre est ce chaos organisé et l'impression de se retrouver dans un univers à la fois structuré et complètement spontané. Disposé en cercle autour de l'orchestre de chambre, on retrouve parmi les six instruments solistes une harpe, deux pianos, mais également du vibraphone, xylophone et un cymbalum confrontant l'individualité face au collectif de l'ensemble. Répond de Pierre Boulez par l'ensemble intercontemporain dirigé par Mathias Pincher, nous venons d'entendre la section 2. Véritable révolution musicale et spatiale, elle pousse également la virtuosité des trois percussionnistes au-delà, comme dans toute l'œuvre de Pierre Boulez, particulièrement à travers l'utilisation du clavier et de l'aspect mélodique et harmonique de la percussion, non plus seulement considérée que dans son rôle rythmique ou d'illustration. Et cette dimension clavierique, un autre compositeur va s'y intéresser de près. Il s'agit bien sûr de Steve Reich, précurseur de la musique répétitive. Je parle de Steve Reich car il représente, je pense, une certaine universalité. Il s'est presque imposé comme un compositeur de musique classique au sein de la musique contemporaine. C'est l'évidence de la simplicité, qui ne rime en aucun cas avec facilité. Steve Reich a cette particularité de pouvoir rendre poétique la seule combinaison de patterns rythmiques et harmoniques et de nous inviter au voyage. On retrouve aussi cette idée d'ostinato pendant une longue durée, parfois sur des dizaines de minutes, nous faisant penser en parallèle à notre célèbre et redoutable solo de caisse claire du boléro de Ravel. Il est également l'un des premiers compositeurs à dédier un répertoire de musique de chambre conséquent à la percussion. On peut nommer par exemple Nagoya Marimba, Six Marimba, Marimba Phase. Le marimba tient donc une place prépondérante, la sonorité boisée et chaleureuse de ce grand idiophone aux 5 octaves de lame de palissandre, étant mise sur le devant de la scène pour être découvert par un plus large public. le premier mouvement de Mallet Quartet de Steve Reich, ici magnifiquement interprété par le quatuor américain Third Coast Percussion. Alors que Steve Reich jette son dévolu sur notre xylophone géant, un autre compositeur, lui, est beaucoup plus attiré par l'aspect premier de la percussion. Il s'agit du compositeur grec naturalisé français Yanis Xenakis. Compositeur, bien sûr, mais également mathématicien et architecte. Inventeur de la musique stochastique, il a révolutionné le milieu de la création, mais en particulier le rôle de la percussion soliste. Poussant la virtuosité de l'interprète à son comble, ses œuvres étaient réputées quasiment injouables. Avec des tempi très exigeants, les deux solos pour percussion, rebond et psafa, se sont notamment imposés comme des incontournables dans notre répertoire et forment des pièces de récital, de concours et d'examen, indispensables pour tout percussionniste. Les instruments à peau et sans hauteur définie sont le plus souvent utilisés dans ses œuvres, imageant la force sonore première de la percussion et sa dimension tribale. Et son écriture se veut comme un dépassement de soi à tous les niveaux. D'une part intellectuelle, car ses partitions sont très complexes et quelquefois non écrites sur des portées classiques, par exemple sur du papier millimétré. Le rythme est pensé comme une formule mathématique, se complexifiant au fil du jeu. Mais aussi un dépassement physique, car la virtuosité est à son apogée, et la force sonore doit toujours augmenter. Le côté mystique est très engagé, les sons de la percussion brute peuvent être presque apparentés à ceux des cataclysmes naturels, aux forces de la nature et à la recherche et la confrontation avec l'inconnu. Écoutons ici Comboy, duo de clavecin et percussion, écrit en 1981. L'instrumentarium y est composé d'instruments à peau, d'un vibraphone, mais également de peau de fleurs. La percussion rappelle qu'elle est également possible sur n'importe quel support et que chaque objet peut devenir instrument.
Thank you.
Comboy du compositeur Yanis Xenakis, pièce de musique de chambre, avec ici Elisabeth Shoshnaka au clavecin et Silvio Gualda aux percussions. Xenakis est donc bien évidemment l'un de mes compositeurs préférés et un de ceux que je joue le plus. Je l'ai découvert la première fois à mon entrée au Conservatoire de Paris et depuis ses pièces ne m'ont plus quitté. On disait souvent que sa musique était froide, trop calculée, mais je pense qu'elle appelle justement à une liberté de jeu décuplée. L'écriture de ses partitions et son interprétation sont également la traduction parfaite de l'énergie et de la vibration que dégage un instrument à percussion. Et elle touche tous les publics, ramenant à l'essence et à l'évidence même du rythme et de la recherche sonore. Cette quête de la virtuosité et cette exploration des limites sont d'ailleurs partagées par une autre personnalité, la compositrice Unzuk Chin, pour qui la difficulté doit être au service d'un haut moyen d'expression. J'ai personnellement découvert ses œuvres en live pour la première fois au Festival Présence en 2023, et ça a été l'un de mes coups de cœur musicaux. Elle réussit le défi de nous émerveiller et nous émouvoir en permanence au travers d'une exécution d'une extrême complexité. Je pense également à la pièce Allegro Manon Troppo, pour percussion seule et électronique, qui possède une vision très moderne, puisqu'elle confronte l'interprète en live et son double enregistré, qui en constitue la bande électronique. Pièce très ludique, elle utilise aussi bien des instruments classiques que des objets du quotidien, par exemple différentes sortes de papier. Unzuk Chin a donc cette particularité de nous inviter constamment au voyage. Elle rend expressive et sensible la percussion. Le moment du concert devient alors une expédition dans l'imaginaire, pour l'auditeur aussi bien que pour l'interprète. En 2003, naît son double concerto pour piano et percussion. Pièce pleine de surprises, elle fait presque fondre les couleurs instrumentales. On dit parfois que le piano est un instrument de percussion. Étant ici préparé avec divers objets, on le confond presque parfois avec le vibraphone ou les cloches de vache. En voici un extrait. Thank you. le double concerto pour piano, percussion et orchestre de la compositrice coréenne Eun Suk-jin, interprété ici par l'ensemble intercontemporain sous la direction de Stéphane Asbury, avec au piano Dimitri Vassilakis et aux percussions Samuel Favre. Œuvre très fournie, frémissante et bouillonnante, on y retrouve une très grande complexité, mais également une incroyable lisibilité d'écoute. Elle se veut comme une exploration, nous évoque une histoire et inspire notre créativité. La matière se transforme et se retrouve en constante évolution, en travaillant la texture, point commun que partage également un autre compositeur italien, Franco Donatoni, qui nous dédie en 2003 de magnifiques pages de musique pour vibraphone solo avec la pièce Omar. Le vibraphone a été un des instruments à avoir l'une des plus fulgurantes ascensions au cours du XXe siècle, par le jazz, et notamment avec Lionel Hampton dans les années 50 aux États-Unis. Il est ici traité de manière complètement écrite et précise, avec une partition restée manuscrite, mais on y retrouve certains codes de phrasé et de groove, comme des clins d'œil à l'histoire de l'instrument, et la pièce est donc naturellement imposée comme l'un des plus grands standards contemporains du répertoire. L'écriture est d'une précision très poussée, le silence étant traité comme un événement à part entière, l'utilisation de la pédale du vibraphone est très précise, et l'action de stopper une résonance devient aussi importante que de la produire en premier lieu. Son deuxième mouvement traite également l'une des particularités de l'instrument, qui est le vibrato. En effet, le vibraphone, pour la petite description, est constitué d'un clavier de lame de métal, d'un minima 3 octaves, amplifié par des résonateurs ressemblant à des tuyaux d'orgue. Et sur ces résonateurs, des petites pales vont être disposées et vont tourner, à l'aide d'un moteur à différentes vitesses, produisant cet effet de vibrato, ce qui fait donc du vibraphone un instrument à la fois acoustique et électroacoustique. Thank you. le premier mouvement d'Omar de Franco Donatoni pour vibraphone seul, que j'ai ici enregistré sur mon premier disque Contemporary, publié par le label Evidence Classics en 2020. Écrite en 1985 et dédiée au percussionniste italien Maurizio Ben Omar, la pièce Omar s'est presque imposée comme un exercice de jazz écrit contemporain. Et en parlant justement de jazz et de vibraphone, écoutons maintenant l'un de ses plus grands défenseurs, Gary Burton. Je ne peux pas faire une émission sans parler de ce grand monsieur qui a été l'une de mes plus vives inspirations. Virtuose exceptionnel, mais surtout extraordinaire musicien, ses interprétations les plus connues ont été avec le très grand Chick Corea et leur duo mythique, voire légendaire, qui nous a légué plusieurs magnifiques albums que j'écoute en boucle depuis de nombreuses années. Tout de suite, l'incontournable La Fiesta. La Fiesta, écrite et interprétée par Chick Corea dans une version avec Gary Burton au vibraphone. J'ai eu notamment la grande chance très jeune de les voir en live sur scène et c'est un souvenir extrêmement marquant puisque ce concert a quelque part concrétisé le désir personnel de faire d'une passion, la musique, un métier. En voyant ce duo âgé de presque 70 ans à l'époque, animé d'une fougue juvénile et d'un amour de la scène inégalable. Et cet amour de la scène et de la musique, quelquefois, n'a pas besoin d'explication. Il peut être guidé par la simple émotion et la joie d'écouter un concert ou une œuvre. Et c'est le cas avec ce dernier morceau qui clôture ce programme aujourd'hui. Écrit par le compositeur et génie de la trompette Wynton Marsalis, je vous propose de découvrir Swing Symphony, créé il y a quelques années et son quatrième mouvement, de Manhattan à LA. La création contemporaine, c'est aussi cela, un hommage au présent et au passé, qui se révèle être parfaitement inscrit dans notre temps et d'une infinie légèreté. Merci à tous les auditeurs et auditrices et toute l'équipe de Carrefour de la Création pour cette carte blanche, en particulier à Thomas Vergracht pour sa confiance. À la technique Inès De Bruyne, attachée de production Colline Redon, une réalisation de Céline Parfenoff. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique soirée.
C'est sur les notes suaves de la fin de la Swing Symphony de Wynton Marsalis que se conclut cette carte blanche à la percussionniste Adélaïde Ferrière au Carrefour de la Création sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.